Eh bien, c'est toujours une grande joie de revenir à Lyon, ville mariale par excellence, de par son grand théologien, saint Irénée, patron de cette maison, et premier théologien de la Sainte Vierge Marie, que l'on dit même avoir développé ses premiers balbutiements qui amèneront plus tard à la définition du dogme de l'Immaculée Conception. C'est donc tout trouvé de terminer en quelque sorte ce cycle sur le baptême de la France, sur l'année Clovis, que de parler de la très sainte Vierge Marie en essayant d'analyser un phénomène exceptionnel. Phénomène religieux exceptionnel, ces manifestations contemporaines de Notre-Dame en France, grosso modo, on peut dire, depuis la Révolution française, depuis le XVIIIe siècle. Alors, je ne prétends pas faire œuvre originale. Je pense que l'essentiel de ce que je vais pouvoir vous dire ce soir, vous pourrez le trouver très prochainement dans la publication du Mouvement de la Jeunesse catholique de France, Le Savoir et Servir, qui sortira dans 10 jours, sur justement ce même sujet, de la très sainte Vierge Marie et de la France. Donc vous pouvez dormir ce soir, tout est imprimé, vous ne perdrez rien. De même que vous pourrez aussi consulter le petit cahier Savoir et Servir qui est apparu il y a 6 mois déjà sur le baptême de la France, sur ce 15e centenaire, et qui lui est déjà imprimé et qui vous attendra, je crois, à la sortie, si j'ai bien compris. Ce phénomène des apparitions mariales est un phénomène exceptionnel parce que nous avons une répétition d'apparitions, de visite de la très sainte Vierge Marie à une fréquence exceptionnelle. Si l'on ne tient compte que des grandes apparitions qui ont laissé un message public, un message adressé à la France entière, on peut dénombrer la rue du Bac en 1830, la Salette en 1846, 15 ans après, nous fêtons le 150e anniversaire cette année. On peut citer Lourdes, bien sûr, 1858, Pontmain, 1871, auquel on peut ajouter une apparition qui n'a pas été reconnue officiellement par le diocèse, l'apparition de Pellevoisin en 1876. C'est tous les 10, tous les 15 ans, une visite, une nouvelle visite de Notre-Dame. Alors on essaiera de répondre ce soir à cette question: pourquoi la Sainte Vierge est venue gratifier la France de tant d'apparitions si rapprochées, alors qu'elle n'a pas fait la même chose pour d'autres pays? Il y a eu des manifestations éclatantes, on pense bien sûr à Fatima en 1917, mais cette apparition est finalement isolée au Portugal. Il y aura d'autres manifestations en Belgique, Banneux, Borin. Là aussi, ce sont des feux vite allumés et plus vite encore éteints. En France, il y a cette espèce de succession. Et encore, beaucoup d'autres phénomènes n'ont pas été jugés dignes d'une reconnaissance par l'Église, qui est prudente et qui prend son temps, et pourtant ont des critères tout à fait satisfaisants pour pouvoir rentrer dans le cadre des apparitions reconnues. On pensera, on en parlera un petit peu, l'apparition de l'île Bouchard en 1947. Donc je m'en tiendrai ce soir uniquement à ces grandes apparitions que je viens de citer, parce que dans ce domaine du surnaturel, du ciel qui vient visiter la terre, nous devons être toujours très prudents, et de la prudence même de l'Église. Donc, appuyer ainsi les deux pieds sur les reconnaissances que l'Église a voulu donner à ces manifestations surnaturelles, nous ne risquons rien. Et ensuite, nous verrons que finalement, le message que Notre-Dame délivre dans ses apparitions est un tout auquel il n'y a plus grand-chose à rajouter. Et donc, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qui est exprimé en peu de mots, peu de gestes, de façon très claire et très complète. Premier point de ce phénomène extraordinaire, c'est la répétition, c'est l'importance. Deuxième point, c'est le rayonnement de ces apparitions qui ont largement dépassé nos frontières. Et non seulement on peut dire que les pèlerins des autres pays, d'Europe, du monde entier, viennent dans ces sanctuaires mariales, mais on doit dire aussi, d'une certaine façon, que les autres apparitions mariales dans les autres pays européens, en particulier, sont comme amorcées par les apparitions qui ont eu lieu en France auparavant. Et on pourrait dire que c'est en quelque sorte la traîne des apparitions dont le cœur est en France. Et le troisième point important, bien sûr, et c'est celui sur lequel il nous faudra peut-être insister pour essayer de le mettre en lumière, c'est la question du rapport avec la France en tant que nation, en tant que société. Notre-Dame apparaît en France, mais elle n'apparaît pas parce que il lui faut bien un support. Il faut bien qu'elle apparaisse dans un pays. Elle ne peut pas venir dans une île déserte. Bon. Alors, elle vient en France non seulement en tant que la France est un support géographique, mais aussi elle vient pour la France. Et il y a un message propre à la France, propre pour la France, que Notre-Dame délivre, et il nous est important de savoir pourquoi. Pourquoi la France, finalement, et pourquoi pas un autre pays ? Alors, essayons en premier lieu de faire une espèce de synthèse du message que Notre-Dame a bien voulu délivrer dans cette demi-douzaine d'apparitions du XIXe siècle. Et nous allons voir un rapport entre toutes ces apparitions. Elles se renvoient la balle l'une l'autre. Il y a donc une filiation incontestable. Et non seulement parce que c'est toujours le même personnage qui apparaît, c'est la Sainte Vierge. Et donc, on peut bien penser qu'elle va toujours dire quelque chose qui rappellera ce qu'elle a dit avant. Enfin, elle ne va pas se contredire. Mais aussi parce que il y a là une volonté très explicite d'insister et donc de répéter. Les Français sont, nous le savons bien, des gens à la mémoire courte. La première apparition, c'est l'apparition de la rue du Bac. C'est vraiment la source commune. On la connaît peut-être un petit peu moins parce qu'elle est éclipsée par Lourdes, par la Salette, mais c'est elle qui amorce incontestablement l'ensemble des épiphanies mariales. Trois apparitions, donc, dans ce couvent de Sœurs de la Charité, à une novice, Sœur Catherine Labouré. Le couvent de la rue du Bac, c'est ce qu'on appelle le séminaire. Elles sont là avant de faire leurs vœux pendant plusieurs mois, un peu plus d'une année. Trois apparitions, le 18 juillet, le 27 novembre, c'est la fameuse apparition de la médaille miraculeuse, et puis de nouveau la médaille miraculeuse à une date non précisée du mois de décembre 1830. Ô Marie conçue sans péché, c'est le grand message que la Vierge vient nous annoncer, le message de l'Immaculée Conception, la Vierge Immaculée. Mais au-delà de cet aspect, il faut insister, et c'est ce qui frappera les contemporains. sur les rayons lumineux qui sortent de ses doigts. Médiatrice de toute grâce. Médiatrice des grâces qui sont symbolisées par ces rayons. Pour cette apparition donc du 27 novembre, la novice, c'est son confesseur qui raconte, l'abbé Aladel. Vous savez que sœur Catherine Labouré restera anonyme jusqu'à sa mort. C'est uniquement par le truchement de son confesseur, de ses confesseurs et aussi de ses supérieurs qu'on connaîtra le message. La novice a vu dans l'oraison, l'apparition de la médaille miraculeuse se passe pendant qu'elle est au cœur, en train de prier avec les autres sœurs, l'oraison. A vu dans l'oraison un tableau représentant la Sainte Vierge telle qu'elle est ordinairement représentée sous le titre d'Immaculée Conception. Vous notez bien, ordinairement représentée sous le titre d'Immaculée Conception. Donc ça n'est pas ça qui vraiment frappe les contemporains. Elle était en pied, donc debout, tendant les bras, vêtue d'une robe blanche, d'un manteau de couleur bleue argenté avec un voile aurore. Il sortait de ses mains, comme par faisceau, des rayons d'un éclat ravissant. Et la sœur entendit au même instant une voix qui lui disait « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes. » Et autour du tableau, elle lit la fameuse invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Le point dogmatique, donc, de cette apparition, c'est l'Immaculée Conception, médiatrice de toute grâce. Médiatrice pour ses enfants. C'est ainsi qu'elle va appeler sœur Catherine Labouré. Mon enfant, n'ayez pas peur. Mais cette médiation de grâce ne s'arrête pas là. C'est là tout ce qui nous est exprimé par la représentation de la médaille miraculeuse. La Vierge est médiatrice de grâce, oui, mais pourquoi ? Pour amener à la croix. Et elle demande que les fidèles viennent devant cet autel où les grâces seront distribuées. C'est le tout début du message, la première apparition au mois de juillet. Elle amène donc à la croix. Et dans le... Parce que l'autel, nous savons bien, c'est le sacrifice de la croix renouvelée. Et dans la représentation de la médaille miraculeuse, nous voyons au recto, le M surmonté de la croix. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il sera prolongé par une autre, non pas apparition, mais une locution qu'aura la sœur 18 ans plus tard, en 1848. Sœur Catherine Labouré a cette image de l'érection d'un calvaire qui est demandé à la France. Alors, les dimensions sont données sous peine de grand malheur. La croix est donc bien présente dans le message de sœur Catherine Labouré. Voilà ce qui est présenté, l'ensemble qui est présenté sur le plan de la théologie dogmatique et de la foi. Dogmatique à la rue du Bac. Et le pendant de ceci, c'est le plan moral. Et bien pour nous, il nous est demandé de prier. Et ceci, nous allons le retrouver dans toutes les apparitions. On pourrait s'arrêter là. Venez prier pour que moi je puisse vous accorder les grâces. Voilà en substance ce que nous dit la Très Sainte Vierge Marie en 1830. Et ce message, il est très bien compris. Il est très bien compris encore à Paris par un curé, l'abbé Dufriche d'Egenette, curé de Notre-Dame des Victoires. Le 3 décembre 1836, il dit sa messe devant ses 10 paroissiens habituels, un dimanche. Et à ce moment-là, il a cette idée: ton ministère ne sert à rien. Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie. Il annonce cela, que la consécration aura lieu la semaine prochaine, dimanche, Et le dimanche, il ne peut pas rentrer dans son église. 500 personnes qui se pressent. Et c'est le départ d'une conversion de toute une partie de Paris autour de cette paroisse Notre-Dame des Victoires. En 1837, on y notera 15 000 communions. Prier, se consacrer à Notre-Dame, et en échange, les fruits sont surabondants. Quand je vous disais que 1830 est l'amorce et que les autres apparitions sont dans ce prolongement, je m'appuie bien sûr sur la parole même de sœur Catherine Labouré, qui en 1858, lorsqu'elle commence à entendre les fameuses apparitions de Lourdes, elle s'écrit « C'est la même ». Oui, c'est la même. C'est la Sainte Vierge. Et ça sera la même chose. Je suis l'Immaculée Conception. 25 mars 1858. À Pontmain, nous avons là aussi la traîne de l'apparition de 1830. Car l'apparition de Pontmain, la Vierge apparaît dans un ovale en plein ciel, et immédiatement on fait le rapprochement, mais cet ovale, c'est la médaille miraculeuse. Et si on étudiait ça de plus près, pour les autres apparitions, on trouverait cette traînée de l'Immaculée Conception et de la mère, parce que Notre-Dame est aussi notre mère. Elle appelle sœur Catherine Labouré mon enfant, elle appellera les petits voyants de la Salette, mes enfants, n'ayez pas peur. Alors justement, cette apparition de la Salette du 19 septembre 1846 se place dans un même mouvement sur le plan dogmatique que l'apparition de 1830. Nous voyons Notre-Dame qui vient se placer pour intercéder, comme une mère intercède pour ses enfants. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres. Nous voyons ainsi Notre-Dame s'intercaler entre son fils et nous. Et elle souffre pour nous. Elle prie et elle souffre pour nous. Et elle retient le bras de son fils qui menace la France de châtiment. Donc ce sont des grâces qu'elle distribue. Ce n'est plus sous le symbole de ses rayons, mais la doctrine est bien la même. Et, petite parenthèse, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que la Sainte Vierge qui est au ciel dans la béatitude puisse souffrir? C'est pas possible. La béatitude, la vision de Dieu comble entièrement les élus, comme les anges qui sont au ciel. Ils ne peuvent pas subir les misères que nous connaissons ici-bas, la souffrance, les pleurs, les larmes. Il n'y aura plus de gémissements, il n'y aura plus de larmes, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Alors, il nous faut peut-être essayer de comprendre que, bien sûr, la Sainte Vierge ne souffre pas. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sacré-Cœur au ciel, ne souffre pas. Ils ne peuvent plus souffrir. Mais les causes de la souffrance, elles existent bien. Et lorsque nous voyons la Sainte Vierge pleurer à la Salette, c'est pour nous un signe qui est en dessous de la réalité. Elle essaye d'exprimer à notre niveau, au niveau dont nous sommes capables, auquel nous sommes capables de nous élever, elle essaye d'exprimer par des paroles et par des gestes la réalité de la situation, en l'occurrence de la situation du monde. Une situation misérable dans laquelle sont les âmes des pécheurs. Et ce sont des causes objectives, actuelles, de souffrance, même s'il ne peut pas y avoir de souffrance au ciel. Alors la très sainte Vierge Marie à la Salette vient saisir les hommes pécheurs pour les ramener à Dieu. Et cet aspect dogmatique que nous venons de voir, Notre-Dame qui intercède et qui intercède de façon terrible. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. C'est clair. Cet aspect-là est complété par l'aspect moral qui nous touche directement. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Prière et pénitence. Elle veut nous rappeler, elle veut nous ramener à la prière privée. Mes enfants, faites-vous bien votre prière? Oh, pas beaucoup, madame. Il faut bien la faire, mes enfants, soir et matin. Ne diriez-vous seulement qu'un pater et un ave quand vous ne pouvez pas faire mieux? Quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. Rappel de l'importance de la prière privée. Rappel de l'importance de la prière publique. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder, le 7e. Le dimanche, le jour réservé au bon Dieu, c'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Réforme des mœurs, et qui est indiquée de façon plus précise qu'en 1830, il faut bien le reconnaître. En 15 ans, de l'eau avait coulé sous les ponts des villes de France. On était passé d'une royauté à une autre. On allait bientôt passer d'une royauté à une république. Prière et puis respect à rendre à Dieu. Et en particulier, ceux qui mènent les charrettes, dit la Sainte Vierge, ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. L'apparition de la Salette est très très semblable à l'apparition de 1830, l'apparition de la sœur Catherine Labouret. Si nous considérons la forme, nous voyons exactement la même chose. Il y a une mission qui est confiée à la religieuse ou alors aux deux enfants. Cette mission doit passer à tout le monde. Et c'est le salut de la Sainte Vierge. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Et pour garantir le sérieux de la chose, la Sainte Vierge, d'un côté comme de l'autre, va accorder un signe qui est là, en quelque sorte, pour convaincre les voyants, si c'était besoin, surtout les autorités ecclésiastiques. Ces signes, ce sont des prophéties. Ce sont les prophéties livrées au mois de juillet 1830 à sœur Catherine Labouret sur la chute de Charles X, sur les malheurs qui vont ensanglanter, les malheurs de la Révolution qui vont ensanglanter Paris, sur l'assassinat de l'évêque même de Paris, et il s'agit de l'évêque Monseigneur d'Arbois, mort en 1871, sur les barricades, fusillé par la Commune. Donc des prophéties qui garantissent le sérieux, et c'est ça qui va frapper le confesseur, sœur Catherine Labouret. Et du côté de la Salette, ce sont les fameux 2 secrets de Maximin et de Mélanie qui seront livrés au pape Pie IX. Le commentaire du pape Pie IX en lisant ces 2 secrets, « Vous voulez connaître les secrets de la Salette » dit-il à Monsieur Giraud, le supérieur des missionnaires de la Salette. « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. » Sur la forme aussi, pour finir, nous voyons des deux côtés Notre-Dame éplorée. En 1830, Notre-Dame ne peut que difficilement parler lorsqu'elle raconte les malheurs qui vont tomber sur la France. En 1846, Notre-Dame pleure à chaudes larmes. Et sur le fond, nous venons de le voir, c'est le même message, prière, pénitence. Dans le prolongement de la Salette, il est bon de nous rappeler cette petite apparition qui aura lieu en 1873 à Saint-Bosile-sur-Sylve, près de Béziers, où un vigneron, Auguste Arnaud, travaille un dimanche matin à sa vigne. Et 7h30, il est matinal, c'est sûr, au lieu d'aller à la messe, la Sainte Vierge viendra lui tirer l'oreille et le secouer en lui disant « Il faut que tu ériges une croix dans ta vigne, que tu en fasses ériger 2 ou 3 par monsieur le curé et que tu ailles faire les pèlerinages de X, Y, Z qui sont autour de la paroisse et puis que tu retournes pratiquer. » et le brave Auguste ne se fera pas prier de vous. Et la Sainte Vierge lui dit, et je reviendrai dans un mois. Respect du dimanche, prière, pénitence, c'est toujours le même message. Message qui va être encore une fois amplifié, cette fois-ci à Lourdes, à partir du 11 février 1858, 18 apparitions, c'est un record. Il n'y a que Pellevoisin qui arrivera à s'en approcher avec 15 apparitions. Du 11 février au 16 juillet, la Très Sainte Vierge Marie apparaît à cette petite Bernadette Soubirous, et c'est le même message. Le 21 février, je vous demande de prier pour les pécheurs. Le 18 février et le 23, je vous demande de venir en pèlerinage, d'ériger un sanctuaire. Le 25 février, pénitence, pénitence, pénitence. Et puis la fontaine. La fontaine à laquelle vous devez aller vous laver, l'herbe qu'il faut manger, acte de pénitence. Et cette fois-ci, la Sainte Vierge ne fait pas une prophétie pour convaincre l'autorité ecclésiastique, elle révèle simplement son nom. Je suis l'Immaculée Conception le 25 mars. Nous savons comment le curé, l'abbé Peyramale, fut soufflé. Entendre cette petite lourdaise qui ne connaissait pas son catéchisme, lui sortir cette définition dogmatique que Pie IX venait juste de prononcer 4 ans avant. Et en plus du dogme de l'Immaculée Conception, nous devons noter un petit détail qui apparaît peut-être insignifiant, mais qui a une grande importance. Si je ne me trompe, c'est là vraiment qu'il apparaît dans le cycle des apparitions mariales pour la première fois. L'apparition d'adieu, elle est silencieuse, a lieu le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et c'est un signe que nous allons retrouver. Et que nous allons retrouver plusieurs fois, et que nous allons retrouver amplifié ultimement par le message de Fatima. Par le message de Fatima et avant, par le message d'une future carmélite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a, elle aussi, eu son apparition. Nous nous en rappelons bien, c'est dans sa jeunesse, alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille de 9-10 ans, et qu'elle est atteinte de cette terrible maladie, une maladie nerveuse. On la croit perdue, au point que l'on va aller faire dire, à partir du 28 avril 1883, des messes à Notre-Dame des Victoires pour sa guérison. Et le résultat ne se fait pas attendre. Le 13 mai 1883, la Sainte Vierge va lui sourire. La fameuse statue qui est posée à gauche sur sa commode, là, lorsqu'on visite sa chambre à Lisieux, alors qu'elle la regarde, la Sainte Vierge lui sourit. Oh, que je suis heureuse, la Sainte Vierge m'a souri. Ça n'est pas quelque chose de superflu dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, car toute la spiritualité de la petite voix thérésienne, c'est la spiritualité de la Sainte Vierge. Et ingénument, Sainte Thérèse nous le révèle. Elle appelle la Sainte Vierge ma mère chérie. Elle avait perdu sa mère de la terre quand elle était très jeune, à 5 ans. Et continue Sainte Thérèse, ordinairement, les enfants ressemblent à leur mère. Dans le prolongement de Lourdes, nous avons aussi Pellevoisin, qui a lieu, donc, cycle d'apparition entre le 14 février et le 15 décembre 1876, et la Très Sainte Vierge se présente officiellement comme voulant continuer le cycle de Lourdes. En particulier, elle apparaît dans la nuit du 3 au 4 juillet 1876, le jour même, on a consacré la basilique de Lourdes, on a couronné la Vierge de l'Immaculée Conception. Elle vient trouver la voyante, une jeune femme, Estelle Faguette, une trentaine d'années, et elle lui dit qu'elle vient finir la fête avec elle. Qu'il prie, dira-t-elle à Estelle Faguette, je leur montre l'exemple. La Salette, Lourdes, c'est donc toujours le même message répété à satiété, la Sainte Vierge, médiatrice de grâce, pour nous amener à son Fils et à la croix de son Fils. Et nous, répondant à cette foi, nous devons avoir les œuvres de la foi, la prière, la pénitence. Et on peut terminer ce cycle d'apparition par la vision du 17 janvier 1871 dans le ciel de Pontmain. C'est l'apparition la plus symbolique. C'est donc bien Notre-Dame Immaculée qui apparaît dans cet ovale qui représente la médaille et qui, en même temps, sépare la Sainte Vierge du reste du monde. Et tout comme à Lourdes, Notre-Dame a donné son nom, je suis l'Immaculée Conception, elle a aussi donné notre nom à nous, les pécheurs. Et cette apparition du village de Pontmain se place pendant la guerre franco-prussienne, désastreuse, alors que les Allemands avancent sur Laval, dans ce petit village qui est dirigé d'une main sacerdotale très sainte, hein, par l'abbé Guérin. Les petits-enfants, le procès canonique en a retenu 5, il y en a eu probablement plus, des petits-enfants entre 5 et 12 ans vont voir pendant 4 heures à peu près la Sainte Vierge dans le ciel, et l'attroupement se fait autour des enfants, devant la grange au-dessus de laquelle apparaît la Sainte Vierge, mais on ne la voit pas. Et l'apparition va se modifier, elle restera toujours très silencieuse, elle va se modifier au fur et à mesure des différentes prières que le curé orchestre avec ses paroissiens. D'abord, on dit le chapelet, et alors Notre-Dame grandit. Pour montrer combien la prière aide, on pourrait dire, la très sainte Vierge dans sa mission. Non seulement elle grandit, mais les étoiles qui sont sur sa robe se multiplient. Elle devient plus belle. Puis on entonne le Magnificat, et alors à ce moment-là commence à apparaître la banderole. Mais priez mes enfants. Et on note qu'après le mais, il y a un long temps de silence. Mais. Puis les litanies. La banderole continue. Dieu vous exaucera en peu de temps. Enfin, on chante l'Inviolata, donc l'hymne à Notre-Dame. Et à ce moment-là, nous voyons apparaître mon Fils. Ça y est, nous sommes certains que c'est la très sainte Vierge Marie. Et au Salve Regina, se laisse toucher. Mon Fils se laisse toucher. Et quand l'on entonne le cantique populaire Mère de l'Espérance, alors la Sainte Vierge ne se retient plus de joie. Et avec les bras, elle bat les yeux. Le sourire, un sourire plus que jamais qui va ravir les enfants. Oh, qu'elle est belle, oh, qu'elle est belle. Et à ce moment-là, elle montre sur son cœur une croix rouge inscrite. Puis, quand l'on fait succéder au maire de l'Espérance le parche dominé, alors à ce moment-là, c'est la scène la plus terrible de l'apparition. Un crucifix apparaît, tout rouge. Le crucifié est rouge lui aussi, surmonté d'un titre en blanc, Jésus-Christ, et la Sainte Vierge le saisit à deux mains et sa tristesse est immense. Et avec l'Ave Maristella, Notre-Dame reprendra sa position et le curé, étant quelqu'un de sage, considérera qu'il est tard et l'heure d'aller se coucher. On fera la prière du soir et à ce moment-là, un voile va tomber devant Notre-Dame. Notre-Dame ne disparaît pas, c'est un voile qui la rend invisible, mais elle reste présente. C'est là le sens de cette espèce de disparition. Elle est voilée, mais non absente. Et nous savons, les Prussiens s'arrêtent. Et ils reculent même de 20 km. 11 jours après, l'armistice est signé. Nous voyons là, à Pontmain, l'exemple type de la prière exaucée par l'intercession de la Vierge Marie. Dans ce petit village, on priait tous les soirs pour les militaires. Les voyants, Eugène et Joseph Barbedette, faisaient un chemin de croix tous les jours, ces deux petits garçons, spécialement pour les gars du village partis à l'armée. On priait pour que ça se termine bien. On partait pour l'invasion totale et l'intercession de la Très Sainte Vierge. Mais, malgré tout ça, mais, priez mes enfants. Mon fils se laisse toucher, il se laisse toucher par elle, parce que je suis sa mère. Cet effet de la prière est rappelé et repris pratiquement dans les mêmes termes à Pellevoisin. Pellevoisin, Estelle Faguette est à l'agonie. La Sainte Vierge vient la trouver et elle lui dit « Samedi prochain, tu seras guéri. » Et trois fois comme ça, elle va venir pour rendre courage à Estelle Faguette. Courage, prends patience. « Mon fils, dit-elle, et c'est exactement la même phrase de Pontmain, « Mon fils va se laisser toucher. » Voilà ce qu'elle dit le 16 février, et deux jours après, Estelle Faguette est entièrement, miraculeusement guérie. Le curé n'y comprend rien. Et plus exactement, il y a une petite subtilité, Estelle Faguette est guérie dans son corps entièrement, sauf le bras droit. Alors lorsque le curé vient la voir le matin du 19, il constate ceci et il dit « Écoute, il était venu pour lui donner l'extrême onction, il se demandait s'il allait la trouver vivante. Écoute, je vais aller dire la messe, quand je reviens, et je demanderai que tu puisses faire un signe de croix avec ton bras droit. Et je reviens. » Quand le curé revient, malin, avec deux ou trois témoins, eh bien Estelle Faguette fait son signe de croix devant le curé, avec la main droite. Recommence. J'ai la berlue. Non, recommence. Elle refait un signe de croix. Elle est entièrement guérie. Elle vivra jusqu'à 90 ans. Alors, si vous voulez, pour conclure ce premier point, on pourrait dire que le message est toujours le même. Dogmatique. C'est la Vierge qui vient intercéder pour nous amener à son fils en croix. La rue du Bac, Pontmain, c'est très clair. Notre Seigneur Jésus-Christ crucifié et la Sainte Vierge Immaculée qui vient intercéder. Et puis nous, il faut que nous y mettions aussi du nôtre. Demande de prière, demande de pénitence, demande, si nous prolongeons ça par le message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, demande de prière et de pénitence dans la vie quotidienne, par la vie quotidienne, par notre devoir d'État. C'est la petite voie. On ne demande plus des macérations des pères de l'Église, on demande d'accomplir comme il faut ce pourquoi le bon Dieu nous a mis sur la terre. Ce message, qui est finalement très simple, il est délivré à la France, aux messagers français, mais pour le monde entier. La médaille miraculeuse, elle est destinée à être répandue partout. Lourdes, c'est un appel pour un sanctuaire qui a une vocation mondiale. La Salette, faites-le passer à tout mon peuple. Et on peut entendre le mot peuple dans le sens général, le monde entier. Tous les hommes sont les fils de la Sainte Vierge Marie. Pellevoisin, le 15 septembre 1876, la Sainte Vierge livre un message pour l'Église juste avant la France d'ailleurs. C'est donc bien que la Sainte Vierge a en vue l'Église entière. Quant à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je n'insiste pas. Sa petite voix a fait le tour du monde. Alors nous voyons que par ces apparitions, c'est clair, la France, parce que les apparitions ont lieu en France, la France a le rôle de répandre le message que la Vierge Marie vient lui donner, non pas uniquement pour elle, mais pour tous, pour l'Église entière. Pourquoi, pourrait-on objecter, pourquoi cet ensemble d'apparitions? Les Français ont la mémoire courte, c'est vrai, c'est quand même pas très suffisant. Si le message est toujours substantiellement le même, pourquoi ne pas avoir tout concentré dans une seule apparition? On pourrait dire pourquoi ne pas avoir mis le paquet? Eh bien, c'est sœur Catherine Labouret qui nous donne la réponse lorsque elle entend parler de l'apparition de Lourdes. Elle dira que si les supérieurs de son ordre religieux, c'est-à-dire les lazaristes et les filles de la charité, si les supérieurs avaient suivi d'un peu plus près les demandes de la Sainte Vierge, eh bien Notre-Dame serait revenue dans la rue du Bac et ne serait pas allée se perdre, entre guillemets, à Lourdes. Cela veut dire que la Sainte Vierge est venue en 1830 et qu'elle a été écoutée, mais à moitié. Pas comme il fallait. Et sœur Catherine Labouret ne verra pas finalement la rue du Bac transformée véritablement comme la chapelle où on vient au pied de l'autel recevoir les grâces que Marie veut distribuer. Venez au pied de cet autel. Ce sera tard, après sa mort, elle est morte en 1876, que se réalisera véritablement les volontés de la Sainte Vierge. Il y a donc un manquement du côté de la terre. La Sainte Vierge, le Sacré-Cœur, les saints viennent pour nous secouer, mais nous sommes toujours libres de dire non aux plus grandes grâces. Voilà la raison, me semble-t-il, la plus profonde pour expliquer cette répétition, cette insistance de la très sainte Vierge Marie, une insistance qui va en crescendo à mesure de la décomposition de la société française. Et c'est ainsi qu'on peut se pencher plus spécialement sur le message que la Sainte Vierge veut faire passer cette fois-ci uniquement et directement pour la France. Car la Sainte Vierge est apparue dans des interventions très spéciales. D'après certains témoignages de soldats, et de soldats allemands en particulier, vous aurez vu, il y a une dame, une grande dame qui nous empêche d'avancer. Et de fait, donc, le soir même, l'invasion s'arrête. 3 jours après, les Allemands reculent de 20 km et puis c'est l'armistice le 28 janvier. Nous retrouvons exactement le même phénomène. Là, nous n'avons pas pu le contrôler suffisamment. Pendant la guerre de 14, le 12 septembre 1917, c'est la bataille de la Marne. Les rapports de certains soldats allemands laissent croire qu'il y aurait eu une apparition d'une grande dame les empêchant d'avancer. Et que, sous peine d'être fusillés, ils ne devaient pas en parler. On a quelques témoignages de soldats prisonniers. Quelques évêques en ont fait part à leur tour. Donc là encore, la Très Sainte Vierge intervenant, même s'il faut prendre cette apparition au conditionnel, intervenant pour préserver le pays. Autre intervention toute spéciale de la Très Sainte Vierge Marie, c'est en 1947 à l'île Bouchard. Pendant une semaine, la Sainte Vierge Marie apparaît à 4 petites filles en leur demandant de venir et de prier, car la France est en grand danger. Je ne suis pas venu ici pour faire des miracles, mais pour vous dire de prier pour la France, qui ces jours-ci est en grand danger. C'est le 10 décembre 1947. Et le 15 décembre, sa dernière apparition, qui sera illustrée d'un miracle lumineux d'ailleurs, la Sainte Vierge rassure les enfants, le danger est passé. On a quelques témoignages de personnes de l'administration et de la police bien placées disant que dans ces semaines-là, une insurrection communiste avait été projetée, qu'il n'y avait, semble-t-il, aucun moyen de l'arrêter, et qu'on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas éclaté. Intervention donc spéciale, encore une fois, de la très sainte Vierge Marie. Cette intervention, pour la protéger de l'invasion, cette intervention se place dans une longue tradition. Et si on devait souligner les points forts de cette tradition, on pourrait insister sur le XVIIe siècle et en particulier sur l'apparition de la très sainte Vierge Marie à un petit religieux carme, le frère Fiacre du couvent de Paris. Le 3 novembre 1637, elle va apparaître jusqu'à 4 reprises dans la nuit en tenant un petit enfant dans ses bras. L'enfant que vous voyez est le dauphin que Dieu veut donner à la France. Et la Sainte Vierge demande que 3 neuvaines soient accomplies en l'honneur de Notre-Dame des Grâces de Cotignac. Et en même temps, le frère Fiacre voit dans un grand tableau apparaître la statue de Notre-Dame de Cotignac et puis le sanctuaire qu'il ne connaissait absolument pas. Il n'y était jamais allé. C'est là le signe de la véracité de l'apparition. À ce moment-là, la France vient d'échapper à une invasion militaire et elle est surtout plongée dans des troubles politiques et une rivalité entre le roi et la reine, qui fait qu'ils sont séparés. Et finalement, à la suite de cette apparition et de plusieurs médiations, le roi et la reine vont se raccorder à la fin du mois de novembre. Et naîtra le petit Louis Dieudonné, appelé Louis XIV. Il naîtra le 5 septembre 1638. Et cet enfant a été, on peut le dire, choyé par la Sainte Vierge Marie. En particulier, pendant son règne personnel, puisque lors des apparitions de Notre-Dame à une petite bergère des Alpes, hein, du côté de Gap, Benoît Trancurel, à Aulos, au petit village du Laos, la Sainte Vierge demandera à plusieurs reprises de prier pour le roi. Elle demandera en 1884, à l'époque c'est le roi qui se marie avec Madame de Maintenon, elle demandera de nouveau en décembre 1686 de prier pour le roi, car la révocation de l'édit de Nantes, qui a eu lieu quelques mois auparavant, crée des troubles dans le royaume. Et encore une fois, elle demandera de 1688 à 1697, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, que l'on fasse des prières publiques pour le succès des armes de la France et du roi. Nous voyons Louis XIV ainsi comme au centre des préoccupations mariales. Que ce soit avant sa naissance ou que ce soit pendant son règne, Notre-Dame s'est intéressée à ce roi et nous savons pourquoi. Parce que, à Paray-le-Monial, à une autre religieuse, sœur Marguerite à la Coque, Marguerite Marie à la Coque, la Sainte Vierge, le Sacré-Cœur, mais on peut dire le Sacré-Cœur intronisé, introduit par la très sainte Vierge Marie, va venir demander la consécration de la France, du royaume, à son Sacré-Cœur. C'est le 2 juillet 1688 que la religieuse a une apparition. Elle voit Notre-Dame qui présente le Sacré-Cœur, qui le présente en le confiant à la Visitation, afin que cet ordre religieux le distribue avec abondance, en tâchant d'en enrichir tout le monde sans crainte qu'il défaille, car plus elles prendront, plus il y aura à prendre. C'est donc Notre-Dame, là aussi, qui amorce le mouvement de la consécration de la France au Sacré-Cœur. Et en novembre 1689, le message est entièrement clos. C'est le roi de France qui doit ériger un sanctuaire dans son palais au Sacré-Cœur, mettre l'image du Sacré-Cœur sur ses drapeaux, et que le roi lui-même insiste auprès du pape pour qu'une fête dans l'église entière soit célébrée le premier vendredi après l'octave de la fête Dieu. Ce qui paraît hautement improbable à l'époque. Hautement improbable parce que le roi et le pape sont en plein désaccord à propos du gallicanisme, des fameux quatre articles de 1682. On pourra noter, cependant, que Louis XIV est appelé le fils aîné du Sacré-Cœur. Et nous voyons ainsi le parallèle entre la fille aînée de l'Église et son chef, le roi, fils aîné du Sacré-Cœur. Cette union du Sacré-Cœur, de Notre-Dame, de la France et du roi se retrouve esquissée de façon très ferme à l'apparition de la rue du Bac. C'est ce qui va le plus bouleverser la Sainte Vierge. Deux grands malheurs arriveront. Le danger sera grand. Enfin, les temps sont mauvais. Les malheurs viendront fondre sur la France. Le trône sera renversé. Présence donc du roi. Et le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues sur toutes les personnes. Le trône sera renversé, le roi est bien là présent, et le Sacré-Cœur l'est tout aussi. Sur la médaille miraculeuse, vous vous en rappelez, il y a inscrit les deux cœurs, sous le M de Marie, le Sacré-Cœur et le cœur transpercé d'un glaive de la très sainte Vierge Marie sont bien présents. De même, on peut faire le rapport avec l'apparition de Pellevoisin, où là, la très sainte Vierge Marie se présente ayant au cou un scapulaire. Elle le révélera le 9 septembre 1876. C'est le scapulaire du Sacré-Cœur. J'aime cette dévotion, dit Notre-Dame, en présentant ce scapulaire à Estelle, qui fera, s'emploiera à broder un, puis à répandre cette dévotion. Ce sera l'occasion de l'érection de l'archiconfrérie, du scapulaire du Sacré-Cœur, qui sera reconnu par Rome. À noter que Marie est représentée comme puisant les grâces dans le Sacré-Cœur. Alors, la France est ainsi en quelque sorte mêlée au message, étroitement mêlée au message de la très sainte Vierge Marie est venue apparaître, est venue livrer par ses apparitions. Et c'est pour cela que Notre-Dame va s'efforcer de prier pour la France, de prier à la rue du Bac tout spécialement. Les rayons que l'on voit jaillir de ses mains tombent sur le globe. Et dit-elle, c'est que ces grâces figurées par les rayons découlent avec plus d'abondance sur une partie du globe qui se trouve au pied de Marie. Et cette partie privilégiée, c'était la France. À Pellevoisin, nous voyons, là aussi, la très sainte Vierge se lamenter à propos de la France. Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle ? Que d'avertissement. Et pourtant encore elle refuse d'entendre, je ne peux plus retenir mon fils. Note le rapport avec la Salette où la très sainte Vierge Marie disait qu'elle ne pouvait plus retenir le bras de son fils. La très sainte Vierge intercède donc très spécialement pour la France, prie spécialement pour la France. Et Notre-Dame est triste des malheurs de la France. Dans toutes ses apparitions, elle apparaît pleurant. Elle apparaît comme éperdue même, parfois, que ce soit à la rue du Bac, à cause de ce trône qui va être renversé et de la croix qui sera piétiné, dit-elle, à cause à la Salette, parce que mon peuple ne veut pas se soumettre. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Et vous savez que le secret de Maximin et de Mélanie sont des prophéties, des châtiments qui tombent sur les pays d'Europe et en particulier sur la France. La France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, les guerres civiles, le français se battra contre le français, l'italien contre l'italien. Et pendant la terrible époque de la Commune et des mois qui vont suivre, on verra Maximin craintif, craignant que tout cela ne recommence. En 1873, il dira « Je crains une invasion ». Paris sera brûlé, Marseille sera engloutie, dit Mélanie, et le petit voyant, Maximin, rajoute qu'il voyait quatre rois autour de Paris en feu et le triomphe de la Révolution. À Pontmain, c'est très clair aussi, l'apparition est empreinte d'une grande tristesse. La Sainte Vierge vient demander cette soumission pour pouvoir détourner le bras vengeur de son fils. Appel voisin, c'est la même chose. Je ne peux plus retenir mon fils. Il y a comme une lassitude et qui se termine par cette phrase lapidaire. La France souffrira. Cette tristesse de Notre-Dame, elle vient assurément de des châtiments, des malheurs qui vont s'abattre sur la France, mais aussi et surtout des causes de ces malheurs qui sont les péchés publics ou privés de la France. Et il faut bien reconnaître que le XIXe siècle est une longue décrépitude des institutions publiques catholiques en France. Avec le renversement de Charles X une première fois en 1830, puis avec l'instauration de la République et la République prolongée par l'Empire de Napoléon III, Napoléon III, dont il faut se méfier, dit la Sainte Vierge à la Salette, qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double. Il veut être roi, il veut être pape et empereur en même temps. Ce qui est un comble pour un gouvernant qui avait pour lointain prédécesseur, Louis XIV, le fils aîné du Sacré-Cœur. On se rend compte de l'abîme qui sépare Louis XIV, sans faire de Louis XIV un saint canonisable. Enfin, on se rend compte de la différence qui le sépare de Napoléon III. Cet empire libéral de Napoléon III verra le commencement de la déchristianisation en massive de la France. Alors on comprend que la Sainte Vierge se lamente. Pourquoi ? Parce que finalement, l'instrument privilégié lui échappe. Cet instrument privilégié forgé depuis des siècles, qui est la France, est en train d'échapper à la main de Dieu. Échapper à la main de la très sainte Vierge. Et c'est ainsi que l'on pourrait peut-être découvrir finalement le sens de ces interventions mariales. C'est dans ce prolongement-là. La Sainte Vierge, au XIXe siècle, vient et apparaît comme la reine de la France. Et il faut bien saisir ce que signifie le terme de reine de France. Donc, ayant un pouvoir royal, un pouvoir de gouvernement. D'où vient que la très sainte Vierge Marie peut se dire, d'une certaine façon, plus reine de la France que d'un autre pays? C'est indubitablement de par la consécration de la France que le roi Louis XIII a fait publiquement le 10 février 1638. Consécration de la France qui fait passer dans le domaine de la très sainte Vierge Marie, qui fait passer le royaume, ses gouvernants, ses sujets, toutes ses institutions. Cette consécration a été demandée, en particulier par notre Seigneur Jésus-Christ, en 1636, à Anne de Goulaine, qui était une bénédictine du Calvaire, le couvent de Paris. « Je veux qu'il fasse, le roi, qu'il fasse honorer ma mère en son royaume en la manière que je lui ferai connaître. Et la décision de la consécration du royaume sera prise en décembre 1637 à la suite des grandes victoires ou de la libération du pays, avant même de savoir que Louis XIV, qu'un dauphin pourrait être donné à la France. Louis XIII avait décidé de consacrer la France. Il faut bien saisir ce que signifie cette consécration. Louis XIII, dans les bulles, dans les lettres patentes, plus exactement, qu'il fait paraître à Abbeville le 10 février, précise tout d'abord tous les succès qu'il a pu avoir, les succès si heureux de nos armes, à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra sans doute de la même main dont nous avons reçu les succès, nous avons cru être obligés, nous prosternons aux pieds de la Majesté divine, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, nous avons cru obligés de nous consacrer à la grandeur de Dieu, par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils, par sa Mère élevée jusqu'à lui. Cette consécration est donc bien dans la prolongation, ou plus exactement les apparitions sont bien dans la prolongation de cette consécration. Le roi se consacre à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et par la très Sainte Vierge Marie, tout comme la Sainte Vierge Marie nous ramène à Dieu par elle. Le but final, c'est Dieu, c'est pas la Sainte Vierge. En la protection de laquelle nous nous mettons particulièrement, donc en la protection de la Sainte Vierge, nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne, tous nos sujets. Et il s'agit de confier par cette consécration une mission à la très sainte Vierge Marie. Nous la supplions de nous vouloir inspirer une sainte conduite, donc inspiratrice des desseins des gouvernants, inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis. Et deuxièmement, un rôle de défense. C'est là la mission de Notre-Dame, en quelque sorte, que Louis XIII lui demande. Et cette mission, eh bien les apparitions qui vont suivre, et toutes spécialement ces apparitions du XIXe siècle, si insistantes, ne font en quelque sorte exprimer que Notre-Dame s'acquitte de sa mission. Vous vouliez être inspiré, mais voilà ce que je vous dis de faire. Respectez le dimanche. Respectez-le et respectez-le d'une façon publique, une institution publique. Les rois ont leur mot à dire là-dedans. Nous savons bien aujourd'hui, maintenant, le travail du dimanche est quasiment reconnu officiellement. Inspiratrice donc de saintes institutions. Avant 1789, la Sainte Vierge Marie n'avait pas à agir dans ce sens car les institutions étaient officiellement catholiques. Le roi était roi de droit divin. Le sacre lui faisait obligation de jurer, de défendre l'Église contre les hérétiques, schismatiques et juifs. Inspiratrice donc de sainte institution. Voilà Notre-Dame qui vient remplir son rôle au XIXe siècle, ainsi que venant défendre le royaume, la terre de France, lorsqu'elle est en grand danger. Ce sont les apparitions de Pontmain, de l'île Bouchard et d'autres. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une mission qui est confiée à la France. Là aussi, Louis XIII l'exprime. Après avoir montré demandait que l'on se place sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption, qu'on renouvelle le vœu chaque année par une procession, que l'on dédie dans tous les diocèses une chapelle de chaque cathédrale en l'honneur de Notre-Dame, il demande que l'on admoneste tous nos peuples d'avoir une dévotion particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de nos ennemis et qu'il jouisse longuement d'une bonne paix. Que Dieu y soit servi et révéré si saintement que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons tous été créés. La mission de la France, c'est une spéciale dévotion à Notre-Dame, en réponse à la mission de Notre-Dame vis-à-vis de la France. Une alliance réciproque qui nous engage tout autant que Notre-Dame et qui explique donc ces venues de Notre-Dame qui s'acquitte de sa mission, qui vient préserver le bien commun qu'est le royaume de France. Et c'est pour cela que nous voyons Notre-Dame couronnée apparaître ainsi à Cotignac avec une triple couronne sur la tête, à Pontmain aussi, avec une couronne de reine de France. Et voilà pourquoi aussi la France se retrouve chargée de répandre tout spécialement la dévotion au Sacré-Cœur et la dévotion de Notre-Dame médiatrice, Notre-Dame Immaculée et médiatrice. Et comment la France finit par s'acquitter de sa mission même, malgré elle? Et encore tout récemment, en 1950, un petit garçon de 5 ans, 4 ans et demi exactement, Gilles Bourse, de Lépy, un petit village à côté de Moissac. Il a 4 ans et demi, il est précoce, il a fait sa première communion, c'est vrai, mais quand même. Il n'arrête pas de répéter à ses parents qu'il a vu la Sainte Vierge et que la Sainte Vierge lui a confié un secret qu'il doit dire au pape. L'affaire devait être relativement sérieuse pour que, de fil en aiguille, le petit garçon finisse par être présenté au pape Pie XII le 1er mai 1950. Et que lui a-t-il dit? Quelque chose que lui-même ne devait pas comprendre. La Sainte Vierge n'est pas morte, elle est montée au ciel avec son corps et son âme. À la suite de cette apparition, le pape Pie XII n'hésita plus pour non seulement proclamer le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge le 1er novembre 1950, mais aussi pour modifier le texte de la proclamation en vue de supprimer toutes les références qu'il faisait à une possible mort de la Sainte Vierge. Nous voyons là donc un petit Français, le dernier des petits sujets de la Sainte Vierge, agir malgré lui pour répandre la dévotion éclairée. La dévotion éclairée envers Notre-Dame, et en particulier, non seulement la dévotion, mais la foi, le dogme de foi de l'Assomption. Ainsi peut, je pense, s'expliquer la surabondance des apparitions mariales en France au XIXe siècle. On peut se dire, mais est-ce que finalement la France n'a pas prévariqué et n'a pas dénoncé la consécration qu'elle avait faite sous Louis XIII? Et est-ce qu'il n'en viendrait pas un signe du fait qu'il n'y a plus de grandes apparitions au XXe siècle qui aient été reconnues par l'Église, de grandes apparitions mariales en France? Nous avons le Portugal, nous avons la Belgique, nous avons Syracuse en Sicile. Par ce petit Gilles, il n'y a pas d'apparition française qui ait été reconnue au XXe siècle. Eh bien, je pense que nous devons quand même garder la confiance, parce que nous restons les enfants de Notre-Dame. Et une mère n'abandonne pas ses enfants. Et le signe le plus encourageant, c'est peut-être le fait que Notre-Dame apparaît dans toutes ses apparitions de plus en plus dans le ciel. La rue du Bac, nous la voyons assise dans un fauteuil. À la Salette, nous la voyons sur une montagne. à Lourdes, elle est déjà, elle échappe à l'emprise des voyants, de la voyante de Sainte Bernadette. Elle est dans sa grotte en hauteur. À Pontmain, elle est complètement dans le ciel. Elle ne dira pas un mot. Et le prolongement de cela, c'est bien sûr Fatima. Notre-Dame est totalement dans le ciel. Or, ce signe de la Vierge dans le ciel, c'est le signe de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Alors, on vit un grand prodige dans le ciel. Une femme couronnée d'étoiles, la lune sous les pieds. Couronnée d'étoiles, on peut bien sûr penser à Notre-Dame de Pellevoisin. Et cette femme dans le ciel, eh bien, elle est dans les travails de l'enfantement. Elle souffre. Or, nous savons très bien que la Sainte Vierge n'a pas souffert pour mettre au monde notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas de l'enfantement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est présenté là, dans cette vision de l'Apocalypse à Saint Jean, mais c'est notre propre enfantement. L'enfantement de nos âmes qui se fait pour Notre-Dame dans la douleur. Au pied de la croix, Notre-Dame est co-rédemptrice, mais c'est Notre-Dame de compassion qui souffre. Un glaive transperce son cœur. Pendant toutes ces apparitions du XIXe siècle, nous la voyons souffrir. Et vous ne pouvez pas savoir combien je souffre, dit-elle à la Salette, combien je souffre pour vous. Tout cela est dans la même filiation. Or, cette dame, ce signe de cette dame dans le ciel, il est expliqué de façon plus précise par toute l'histoire biblique et même par toute l'histoire de l'Église. C'est le signe du Carmel. Voilà pourquoi cette apparition de Notre-Dame du Carmel, cette apparition le jour de Notre-Dame du Carmel à Lourdes, qui est repris et amplifié par Fatima et d'autres apparitions encore, Notre-Dame du Carmel apparaît à Sœur Lucie le 13 octobre. Voilà pourquoi ce signe du Carmel a une grande importance. Le signe du Carmel, c'est le signe de la Sainte Vierge qui intervient lorsque tout est perdu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Élie, le seul qui a gardé la foi au vrai Dieu, alors que tout Israël a prévariqué. Et il se mesure avec les prêtres de Baal. Et il se mesure par une espèce de jugement de Dieu. Chacun dresse un autel, un taureau dessus, et on n'y met pas le feu à l'autel. On attend que la foudre tombe du ciel, que ce soit Dieu qui l'envoie, afin qu'il juge quel est le vrai culte. Et les prêtres de Baal crient pendant toute la matinée, et Élie les regarde goguenard et il ne tombe pas une étincelle. Alors que lui, il se tourne vers Dieu et confiant, la foudre tombe. Et non seulement elle pulvérise l'hostie, mais elle pulvérise l'autel. Tout est détruit. Alors à ce moment-là, tout Israël rassemblé devant ces autels, devant le jugement de Dieu, tout Israël comprend où est le vrai Dieu. Et Dieu est prêt alors à bénir Israël en refaisant tomber de la pluie pour qu'il y ait des récoltes. Mais le signe avant-coureur de cette pluie, c'est dans le ciel, vers l'ouest, soleil couchant, l'apparition d'un petit nuage grand comme le pas d'un homme. Ce petit nuage, cette petite nuée, tous les pères de l'Église voient là la très sainte Vierge Marie, qui va faire germer les grâces, qui va faire tomber celui que tout le monde attend, la grâce même du ciel, le Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tout est perdu, l'avant-coureur du triomphe de Dieu, c'est la Sainte Vierge Marie, dans l'Ancien Testament, par ce signe du Carmel. On retrouve exactement le même schéma au XIIIe siècle. L'ordre du Carmel est en pleine décomposition. Son général Saint-Simon Stock ne sait plus quoi faire. À ce moment-là, c'est l'apparition de la Vierge du Mont Carmel avec ce scapulaire. Ceux qui revêtiront cette livrée, qui revêtiront mon habit, et donc qui se consacreront à la Sainte Vierge, eh bien, je leur fais cette promesse inouïe, qu'ils seront assistés à l'heure de la mort pour pouvoir sauver leur âme. C'est la grâce de la persévérance finale, ce n'est pas une grâce minime. Alors, l'ordre du Mont Carmel se trouve dépositaire de la grâce de la persévérance finale. Et il va connaître une expansion extraordinaire. Au XIVe, au XVe siècle, et même encore au XVIe siècle, tous les chrétiens portent le scapulaire du Mont Carmel dans la même proportion où aujourd'hui nous portons tous la médaille miraculeuse. Le sursaut des carmes est encore une preuve de cette intervention in extremis de la Sainte Vierge Marie. Eh bien, dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Cette femme dans le ciel qui apparaît, eh bien, elle échappera au dragon. Le dragon est là pour dévorer sa progéniture, mais elle se sauve dans le désert et finit par échapper complètement au démon qui veut la supprimer, elle et nous. Parce que sa progéniture, c'est nous, c'est l'Église. Alors, voilà pourquoi il me semble que toutes ces apparitions du XIXe siècle, même si elles connaissent une certaine éclipse, c'est peut-être que nous sommes en train de traverser le désert. Aujourd'hui, ne doivent que nous renforcer dans la confiance que nous devons avoir en notre consécration nationale à Notre-Dame, la consécration de la France à Notre-Dame de l'Assomption. Et voilà pourquoi, si nous sommes fidèles, mais là encore, il y a toujours cette condition, c'est que nous devons répondre aux demandes de la Très Sainte Vierge Marie, de retourner publiquement à notre Seigneur Jésus-Christ, à son Sacré-Cœur. Si nous sommes fidèles, alors eh bien, nous sommes assurés de la victoire. C'est le message, la phrase finale du secret de la Salette. À la fin, mon cœur immaculé triomphe. De la Salette, de Fatima, excusez-moi. Voilà. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des questions, car c'était un petit peu long. Essayons simplement peut-être de terminer cela par une prière à Notre-Dame pour la remercier de sa protection qu'elle vient d'accorder depuis 15 siècles à notre terre de France, et en souhaitant, comme les évêques le jour de leur sacre, à leur consécrateur un ad multos annos. Souhaitons-nous aussi à Notre-Dame de nombreuses années de protection sur notre royaume, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour être dignes de cette protection.